Partie 1. L'attention guérisseuse. Chapitre 1. Une clarté nouvelle. N'essayez pas de sauver le monde entier ou de faire quelque chose de grandiose. Créez plutôt une clairière au cœur de la forêt touffue qu'est votre vie. Martha Postlethwaite. Tous, nous nous égarons dans la forêt touffue de nos vies, empêtrés dans nos préoccupations et nos planifications de chaque instant, nos efforts acharnés pour répondre à ce qui est exigé de nous et trouver une solution à toutes sortes de problèmes, sans oublier les jugements d'autrui. Quand on est prisonnier d'un semblable maquis, il est facile de perdre de vue l'essentiel, d'oublier combien on voudrait être bon et généreux, de rompre ses liens avec la terre sacrée et tous les êtres vivants, et, fondamentalement, d'oublier celui ou celle que l'on est vraiment. Cet oubli s'inscrit dans l'état de transe, un état en partie inconscient qui, tel un rêve, est déconnecté de la réalité tout entière. Lorsque nous entrons dans cette transe, notre esprit rétrécit, se laisse omnubiler, immerger le plus souvent dans le seul mental. Quant à notre cœur, en général il s'ankylose, se claque mûr, s'angoisse. Une fois qu'on a identifié les symptômes de la transe, on se met à la voir partout, chez soi comme chez les autres. On est dans la transe quand on vit en pilotage automatique, quand on se sent isolé et séparé de ceux qui nous entourent, quand on est la proie d'un sentiment de peur, de colère, de victimisation ou de déficience personnelle. La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous a le pouvoir de se libérer. Lorsqu'on est perdu dans la forêt, on peut s'ouvrir une clairière, un puits de lumière, rien qu'en s'accordant une pause et en se détournant des récriminations mentales, pour prendre conscience de l'expérience de l'instant présent. Cette prise de conscience éveillée et immédiate, je l'appelle « présence ». On peut aussi la nommer tout simplement « conscience » ou encore « âme », « nature de Bouddha », « véritable nature », « esprit d'éveil ». La liste est longue. Quand on s'est pleinement reconnecté à la présence, il devient possible de s'ouvrir sans aucune résistance à ce qui se passe au fond de soi. Le flux toujours changeant des sensations, sentiments et pensées. Cela nous permet de vivre avec lucidité et compassion les moments qui se succèdent dans notre vie. Passer ainsi de l'égarement dans la réactivité inconsciente, mentale et émotionnelle, à la pleine présence, c'est se réveiller de la transe. Nous allons voyager ensemble. Pour atteindre la présence, les quatre étapes de la méthode RAIN, reconnaissance, acceptation, investigation, phase nourricière, nous serviront de guide. S'il fallait la résumer en quelques mots, on dirait de la méthode RAIN qu'elle éveille l'attention et la compassion, les applique aux régions de notre être qui sont autant de points de blocage et aidez-nous, en chacun de nous, la souffrance émotionnelle. Les fondamentaux de l'exercice sont faciles à assimiler. Vous pouvez commencer dès maintenant à découvrir ce parcours. Au cœur de la dense et sombre forêt dont nous parlions plus haut, la méthode RAIN crée rien de moins qu'une clairière, et dans cette clairière, vous pourrez de nouveau avoir accès à l'intégralité des ressources de votre cœur et de votre esprit. Ce chapitre va me permettre de vous accompagner brièvement à travers chacune de ces étapes du processus et de vous proposer une forme de pratique très simple, une sorte d'échauffement que vous pourrez appliquer à votre vie quotidienne. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de ce jour, de cet après-midi où j'ai eu personnellement besoin de recourir à la méthode RAIN. Pas le temps. Dans l'épaisse forêt qu'est ma vie, bourdonne un vieux mantra, toujours le même. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas la seule dans ce cas, je le sais bien. Nous sommes des millions à vivre à 100 à l'heure, à enchaîner d'heure en heure des obligations que nous rayons l'une après l'autre de notre agenda. Et souvent, nous sommes comme aux abois, contrariés par la moindre interruption, inquiets de ce qui peut survenir à tout moment. Mon anxiété personnelle s'élève particulièrement avant certaines situations liées à l'enseignement que j'exerce. Je me rappelle ainsi un après-midi, il y a quelques années, où j'étais vraiment à la bourre, comme on dit. J'épluchais frénétiquement mes fichiers électroniques, on ne peut plus mal classer, espérant y trouver de quoi nourrir une conférence sur l'amour bienveillant, programmée le soir même. Mon esprit était aussi agité et ensuqué que mes fichiers. C'est le moment qu'a choisi ma mère, qui avait 83 ans et habitait encore chez nous, pour débarquer dans mon bureau, afin de me parler d'un article du New Yorker qui lui avait plu. Me voyant scotché à l'écran de l'ordinateur, et en me jetant probablement un regard noir, elle s'est contentée de poser doucement le magazine à côté de moi et s'est éloignée. Quand je me suis retournée, alors qu'elle partait, quelque chose en moi s'est figé. Il lui arrivait souvent de venir ainsi bavarder avec moi. J'ai compris brusquement qu'elle ne serait pas toujours là pour partager avec moi ces moments de bonne compagnie. Et autre chose m'a frappée. Je me retrouvais à ignorer ma propre mère et à me torturer les méninges dans le but de composer un beau discours sur l'amour. Ce n'était pas la première fois que j'éprouvais cette sorte d'ébranlement pour avoir oublié de distinguer l'accessoire de l'essentiel. Pendant cette première année qui avait vu ma mère partager notre vie, je m'étais souvent sentie écrasée par toutes les contraintes supplémentaires qui pesaient désormais sur mon emploi du temps. Souvent, lorsque nous dînions ensemble, j'attendais que la conversation s'essouffle afin de pouvoir m'excuser et retourner travailler. Ou bien, lorsque je faisais des courses avec ma mère ou que je l'accompagnais à un rendez-vous chez le médecin, au lieu de profiter de sa présence, je ne pensais qu'à une chose, que cela dure le moins longtemps possible. Le temps que nous passions ensemble avait quelque chose d'obligatoire. Elle se sentait seule, et autour d'elle, il n'y avait pratiquement que moi. Elle ne me culpabilisait pas, au contraire, elle était reconnaissante de tout le temps que je lui offrais. Mais c'est moi qui me sentais coupable. Et quand je ralentissais un peu, je ressentais aussi une profonde tristesse. Cet après-midi-là, dans mon bureau, j'ai décidé de m'accorder une pause et de faire appel à la méthode Rain pour m'aider à gérer mon angoisse. Je me suis installée dans un fauteuil confortable et j'ai pris quelques instants pour me calmer avant d'entamer le processus. La première étape consistait simplement à reconnaître R, ce qui est en train de se passer en moi, le cycle sans fin des pensées anxieuses et de la culpabilité. À la deuxième étape, il s'agissait d'accepter A, ce qui se passait, en respirant et en autorisant cette présence. Même si ce que j'éprouvais ne me faisait pas plaisir, mon intention n'était pas de réparer ou de modifier quoi que ce soit, et pas davantage de me reprocher mon anxiété ou mon sentiment de culpabilité. Cette acceptation m'a permis de recentrer et d'approfondir mon attention avant d'entamer la troisième étape, cette phase d'investigation qui consiste à explorer, investiguer, I, les pensées ou les émotions les plus manifestement pénibles. Alors, avec curiosité, j'ai dirigé mon attention vers les sentiments d'anxiété présents dans mon corps, tension physique, sensation de constriction, d'oppression thoracique. J'ai demandé son avis à la partie anxieuse de mon corps et la réponse m'a été infiniment familière. Selon elle, j'allais échouer. Si je ne réussissais pas à me débrouiller suffisamment à l'avance pour donner un peu de chair à mes cours et aux histoires que je prévoyais de raconter, mon travail serait nul et mon auditoire déçu. Le problème, c'est que cette même angoisse me rendait indisponible pour ma mère. Je manquais donc aussi à mes devoirs envers quelqu'un que j'aimais tendrement. Lorsque j'ai pris conscience de ces accès de culpabilité et de peur, j'ai poursuivi l'investigation. Une fois en contact avec cette part de moi-même anxieuse et déchirée, j'ai posé une question. De quoi as-tu le plus besoin? Là, tout de suite. Immédiatement, j'ai senti que cette zone avait besoin de sollicitude, besoin d'être rassurée. Non, je n'étais pas sur le point d'échouer. Il n'était pas question que cela fasse partie de ma réalité. Cette part anxieuse de mon être avait besoin d'être sûre que je me ferais le canal fluide de l'enseignement prodigué, et elle voulait avoir foi en l'amour qui unissait ma mère et moi. J'avais atteint la quatrième lettre du mot Rain, le N, qui évoque le verbe nourrir et symbolise la dimension nourricière du processus. J'ai envoyé un message de douceur vers l'intérieur, directement à la zone anxieuse. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien se passer. Nous sommes déjà si souvent passés par là, à essayer de lutter sur tous les fronts à la fois. Je sentais une énergie chaleureuse et réconfortante se répandre dans mes veines.